au Polysécur. Je suis avec Ingrid et Alexandre. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors, Alexandre, je suis étudiante en relations internationales. Je finis mon master.
Et voilà.
Et Ingrid, donc je travaille dans la sécurisation des solutions numériques et en particulier sur la gestion des facteurs humains en cybersécurité. Et voilà, et avec Alexandre, on réfléchit ensemble sur la protection de l'information, les usages du smartphone et tout ce qu'Internet sait de nous et dont on n'a pas forcément conscience.
C'est effectivement très intéressant parce que l'Internet connaît énormément de choses sur nous et le smartphone est un véhicule très intéressant pour l'Internet pour connaître sur nos vies. Et je crois qu'il y a eu une prise de conscience qui a été faite du côté d'Alexandre. Tu peux nous en parler un peu?
Au sein de mon master, on a eu un cours de protection des données et dans lequel notre professeur du coup nous a montré un petit peu ce qu'était avec des données personnelles et ce qu'étaient les traitements et ce qu'étaient les data brokers et bref, un peu tout ce qu'on avait sur nous et notamment sur la question du smartphone, elle est intéressante parce que bah, on l'a tout le temps sur nous et donc c'est cette partie-là qui moi m'a intéressée sur ce qu'on laisse s'évader dans nos poches.
Voilà, et toute en fait cette fuite d'informations non intentionnelles qui se passe, toutes les clichés, tous les voilà. Donc, on se rend compte que parce que moi, souvent on m'a interpellée sur le fait que la jeunesse en avait rien à fiche et que on utilisait les réseaux sociaux et qu'on partageait notre vie privée, que c'était peu importe. Et je trouvais que les développeurs se déresponsabilisaient un petit peu de leurs obligations en matière de sécurité en disant « mais ma cible, elle s'en fiche ». Et finalement, je trouve à échanger avec les jeunes qu'une fois qu'ils sont sensibilisés et qu'ils ont pris conscience de ce qui pouvait être fait et des détournements qu'on pouvait faire de leur information, bah, je suis pas si sûre que ça qu'ils s'en fichent. Et justement, c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre, parce qu'elle se posait beaucoup de questions et qu'elle avait envie d'agir.
Ouais, bah après, avec, je sais que le cours qu'on a reçu, moi, dans le cadre de mon master, à la suite de ce cours, on a un peu tous changé nos pratiques. Et un des retours principaux qu'on a fait auprès de notre professeur, parce que c'est la première fois qu'elle dispensait ce cours, le commentaire principal, c'est pourquoi on est les seuls à recevoir ce cours. Pourquoi on est les seuls à savoir ça alors que ça nous paraît vital et essentiel? Mais...
C'est peut-être justement une volonté des compagnies de ne pas ameuter les gens ou pas amener cette conscience-là, parce que justement, je pense que ça a amené des changements de comportement. Ces changements de comportement-là sont défavorables à ces compagnies-là qui collectent énormément d'informations.
Et justement, en fait, on en parle dans des cours de relations internationales, mais aujourd'hui, je vois que ça influence aussi sur la prise de décision des décideurs, parce que aujourd'hui, la question de la souveraineté numérique et de l'autonomie dans la prise de décision sont des sujets stratégiques, que à partir des technologies qu'on utilise et la nationalité de la technologie, c'est à quel point suis-je libre dans ma prise de décision. Et à quel point ma décision reste en interne et à quel point elle est partagée avec les autres. Donc là aussi, on n'est pas toujours dans de l'espionnage industriel, mais des fois, c'est juste avoir de l'information pour nous vendre des solutions, pour nous vendre de nouveaux produits, pour de l'offre commerciale. Mais au final, c'est est-ce que j'ai envie de partager cette information? Mais je ne suis plus libre de choisir, puisque ça se passe à mon insu. Et malgré le fait qu'en Europe, on ait le règlement européen sur la protection des données, ben, ça nous protège pour les données personnelles et encore. Jusqu'à quel point il y en a qui préfèrent payer les sanctions et continuer, puisque les données ont beaucoup de valeur.
Ouais, ben, sur le nouveau réglementaire, j'ai encore peu de une compréhension sur l'effet réel que le RGPD a eu, par exemple. Puis là, on regarde les pays là, où le Québec est en train d'imiter ces lois-là. Je ne sais pas à quel point on va arriver à un résultat favorable pour les utilisateurs. Puis justement, là, Alexandre, cette découverte-là, quel genre de changement t'as adopté dans ta vie à comprendre ce que tu laissais couler?
Déjà, sur les réseaux sociaux, j'essaie de faire un peu gaffe. Bon, j'ai jamais été super expansive hein, sur mes réseaux, mais rien que du LinkedIn qui comprend absolument tout, j'évite. J'évite de mettre toute ma vie sur LinkedIn et de mettre mon CV avec mon adresse postale et mon adresse mail perso et mon numéro de téléphone et tout ça. Et j'essaie d'être un peu cachée, enfin, pas vraiment cachée, mais un peu moins visible, on va dire. Et après, un tout petit peu d'hygiène informatique et de faire gaffe à mes cookies et de faire gaffe à mon VPN, à bien activer mon VPN et à pas me connecter à tout et n'importe quoi. Et essayer d'être un tant soit peu protégée. Après, voilà, je passe pas non plus que à l'analogue, mais ça fait un poil plus gaffe.
Il y a aussi toute la sensibilisation de ton entourage. Parce que on voit les réactions aujourd'hui où il y en a qui disent « Oh ouais, j'ai rien à cacher. Ouais. » Oui, mais est-ce que pour autant tu veux que tout soit affiché? Et ça, c'est vrai qu'il y a du travail.
Ouais.
Mais que t'as pas peur.
Non, faut faire attention. Ouais, bah, mon entourage aussi, hein, c'est qu'ils postent pas trop. J'essaie de leur dire aussi. Mais après, j'ai beaucoup de... Ma famille parle sur WhatsApp et que sur WhatsApp. Intégralement sur WhatsApp. Et du coup, je suis un peu contrainte d'avoir WhatsApp. Donc, c'est... Voilà. C'est... Ça met du temps de leur dire de quitter WhatsApp. Mais bon, on essaie. Je pense que
ouais, c'est ça. Il y a des difficultés, justement, à notre entourage. C'est un des points. Là, on est entraîné nous-mêmes contre notre guérille, comme tu mentionnes, justement, dans WhatsApp. Moi, je m'en suis débarrassé il y a quelques années, mais c'est pas facile d'amener ou d'abandonner ces forums de discussion-là qu'on a avec notre entourage, qui sont maintenant rendus généralement numériques, là, dans la plupart des cas. Fait que c'est un travail. Là. Puis comme Gris disait, ben non, j'ai rien à cacher, mais ça cette phrase-là, elle est détestable. Parce qu'elle est fausse. Elle est trop facile pour se déresponsabiliser ou ne pas ça. Puis c'est peut-être ça aussi. Là. C'est peut-être un point de vue de responsabilisation des gens qu'on doit faire. Qu'est-ce que vous en croyez? Qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être pour se rassurer aussi, je pense. Une question de non, mais bon, c'est pas si grave. Il n'y a pas vraiment d'enjeu.
Mais je crois que beaucoup de personnes se déresponsabilisent en accablant l'utilisateur final. Mais aujourd'hui, quand on voit, on nous laisserait jamais prendre un véhicule sans avoir un permis de conduire et sans avoir, on n'a pas le droit de circuler si on n'a pas le permis de conduire. Par contre, on a le droit de surfer sur Internet, même si on n'a pas compris comment ça fonctionnait. Et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de droit à l'oubli sur Internet, que avant, le harcèlement qui se produisait à l'école était qu'à l'école et on changeait d'école, on repartait de zéro. Aujourd'hui, on est suivi partout. On a beau changer d'école, on est toujours poursuivi. Et tant qu'on est connecté, on ne peut pas couper, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas, on est toujours exposé. Et la notion cyber, il n'y a plus de vie professionnelle, de vie personnelle. C'est j'ai une vie connectée et une vie non connectée. Et qu'est-ce que je connecte? Et qu'est-ce que je partage sur le monde connecté? Et ça, aujourd'hui, pour moi, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie du rôle du concepteur de mettre en garde et de prévenir. Ça fait partie du rôle du distributeur. Alors, c'est une responsabilité partagée. C'est l'affaire de tous. Et c'est trop facile de dire c'est l'utilisateur final. C'est l'employeur qui donne pas les moyens et qui va se plaindre parce que par l'ordinateur perso du salarié, il y a eu une intrusion dans son système d'information. Bah ouais, mais en même temps, tu lui donnes pas le matériel. C'est le Covid-19. Enfin, la Covid-19 nous a montré aussi toutes les problématiques du télétravail. Bah ouais, mais en même temps... Il fallait équiper, il fallait sécuriser les connexions, c'est du travail, c'est des coûts, mais après on pleure si on ne fait pas les choses dans l'ordre, et surtout si on n'éduque pas. C'est expliqué
peut-être l'absence de conséquences, puis je vois aussi, puis c'est un peu ce qu'on, l'effet que tu amènes le COVID est très intéressant parce qu'il y a énormément de résistance aux mesures sanitaires associées au COVID parce que les gens ne mesurent pas l'effet de la COVID que ça a, où les gens, pas au point comme la polio, par exemple, faut avoir des effets débilitants assez graves ou des conséquences très graves. Et les gens ont moins résisté à la vaccination à cette époque-là parce que ça avait justement un effet visible et très apparent. Le cyber, il n'y a rien de visible dans ce qu'on fait. On peut faire une erreur, on peut pas s'en rendre compte. D'un coup, 3 ans plus tard, on peut se rendre compte de l'erreur qu'on a faite sur un cyber. On a fait fuiter de l'information. C'est ultra difficile pour les gens pour maîtriser et comprendre ce que c'est ce genre de concept-là. Là, j'imagine, pour les jeunes, encore, c'est encore pire. Là, je veux pas me sentir un vieux monsieur là, en disant là, les jeunes, là, mais je trouve ça un peu drôle là, dans ce contexte-là, mais je suis un peu vieux et aigri, puis j'ai un vieux routier, on va dire. Puis là, ils disent beaucoup, puis ce qui est très apparent, c'est que chez les jeunes, toute cette vie de débauche de l'adolescence, par exemple, qui se retrouve énormément là-dessus et qui n'a plus d'oubli. Mais l'adolescence est un lieu de débauche. de tous les temps, ça a été comme ça. Donc avant, il n'y avait pas de photos. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Avant, il n'y avait rien. Fait que ça, c'est un élément qui est très difficile. Comment tu, dans ton entourage, tu propages cet élément-là de « ne faites pas ça ».
Ouais, bah oui. Non, en vrai, ce qui est intéressant, bah moi, je suis une vieille jeune maintenant, mais je suis plus partie des jeunes, malheureusement. Je suis une vieille jeune. Mais ce qui est drôle, c'est que le discours, ben, moi, ben, je suis née. Ben.
Voilà, la vieille jeune.
La vieille jeune. Je suis une jeune.
Ah, la claque!
J'ai pas dit que j'étais vieille, j'ai vieille jeune.
Non, mais moi je suis une vieille, quoi.
Oh, purée. Moi, j'admettais, moi je t'avais routi.
Je sais pas non plus les nouvelles générations, je connais pas les nouvelles applications. Je suis tout à fait une jeune.
Quoi, tu connais pas TikTok?
Je ne pratique pas. mais déjà, moi à l'époque, quand on a eu Facebook et j'avais 13 ans, mes parents me disaient, ah, c'est pour toute la vie. Mais quand on a 13 ans, pour toute la vie, ça veut rien dire. Et ah quand oui. On nous dit, ouais, mais plus tard pour ton travail, ça ne veut rien dire, j'ai 13 ans. J'ai pas le bac, j'ai pas le brevet. Je sais pas quand ça va être toute la vie. Et je pense que ça rend la chose un peu difficile à appréhender pour les jeunes aussi. Surtout les très très jeunes qui aujourd'hui ont 8 ans, en fait, quand ils sont sur TikTok. Eux, je leur dis, oui, mais ton futur embaucheur le trouvera. Qu'est-ce que c'est qu'un embaucheur? Je pense que ça leur parle peut-être pas trop aussi. Cette échéance qui est trop lointaine.
C'est pas vous.
Mais c'est, en même temps, c'est tout l'effet de groupe de tous les jeunes ensemble. C'est ça aussi, c'est l'effet de meute qui est aussi problématique en ce sens-là, surtout chez les jeunes, où TikTok est un élément très, très important, puis un véhicule de communication, un véhicule d'échange, un véhicule de pas le plus de choses. Par contre, ils savent pas que un, c'est quoi, c'est une compagnie chinoise qui est en arrière de ça, où la Chine n'a pas une bonne réputation au niveau des droits humains et du respect des lois internationales. Donc déjà là, on a un enjeu assez important. Et tous les visages qui sont répertoriés, probablement mis dans des intelligences artificielles pour faire du repérage, faire du profilage, faire une panoplie de choses, ils savent pas. Puis à 13 ans, justement, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? C'est comme ça. Puis ensuite, le stockage est infini, fait que c'est éternel ce qu'on fait là-dessus. Puis j'avais entendu un élément intéressant d'un commentateur américain qui parlait justement que pour l'adolescence, il devrait avoir un droit à l'oubli obligatoire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'après un certain temps, les informations s'effacent de facto. Fait qu'il n'y a pas de « je demande de me faire oublier », ça se fait comme ça. Parce que l'adolescence est un lieu propice à des choses qu'on veut oublier. Fait qu'on le fait comme ça. Par contre, le problème à ça, c'est que les plateformes vont respecter, parce que comme Google va respecter le fait de désindexer, Facebook va respecter ces éléments-là, le problème, c'est qu'on est dans un univers aussi où les gens, entre eux autres, prennent des captures d'écran. Mmh. Donc, capturent de façon personnelle l'information qu'on a, puis qui rediffuse l'information qu'ils ont capturée eux-mêmes par après. Fait qu'on est comme dans un environnement aussi d'éducation, que les gens limitent le problème eux-mêmes parce qu'ils contribuent énormément à ce genre de choses-là. Est-ce que c'est des choses que tu perçois aussi ou ce commentateur-là était un peu farfelu?
Non, bah, en vrai, moi, je trouverais ça intéressant qu'on protège un peu les jeunes, mais surtout que moi, dans ma génération, du coup, bah, on a eu Internet quand on a grandi. Donc vraiment, Internet était vraiment très développé quand on était ado, pour le coup. Donc, j'ai pas grandi avec. Par contre, je suis devenue adulte avec. Et j'ai vu, et même moi, j'étais choquée aussi de la présence par exemple, de mes lointains cousins qui allaient mettre des photos de leurs enfants. Et cet enfant-là, il n'a pas le droit à l'oubli, il n'a pas de consentement, il n'a rien. Et lui, plus tard, dans 20 ans, oui, en effet, si les photos sont réutilisées, sont récupérées et appartiennent à Facebook et ça en fait de la pub, ils n'ont pas vraiment le droit de... Ben, ça ne leur appartient pas. Et leur image ne leur appartient pas.
Parce que c'est vrai, c'est trop chou la photo pleine de chocolat plein la figure ou avec le premier déguisement de lapinou pour aller à l'école. Mais bon, quand on postule et qu'on est dirigeant d'une entreprise, c'est peut-être pas ce qu'on préfère voir sur les réseaux.
Maintenant, ils sont filés depuis qu'ils sont nés, quoi.
Non, mais ça se trouve.
Parce que moi, il y a des photos de moi adolescente boutonneuse sur Facebook, je pense. Mais je suis encore à peu près grande. Ouais, des photos de moi à poil à 8 ans, enfin 3 ans, ça serait chiant, quoi.
Bah, c'est pas con. Ouais, le jour où tu seras président de la République, ça sera pas chiant. Ah, j'avoue que c'est...
La photo en couche,
trop c'est quoi. Ça, ça peut être à 70 ans aussi, hein. Je veux pas dire, c'est pas que les bébés, hein. Et là, le droit à l'oubli des personnes âgées, c'est...
Des personnes dépendantes, ouais.
Voilà.
Ouais, c'est le grand cycle de la vie, on retourne d'où on arrive, là. Ça c'est un peu l'ironie des choses, puis des fois qu'on oublie, là. Mais oui, c'est vrai que les photos, surtout des enfants sans autorisation, ça c'est un axe légal très intéressant à regarder, parce que comme parents, on a tendance à justement ne pas... Les enfants nous appartiennent, donc de facto, le réflexe, c'est que les décisions qu'on prend pour l'enfant sont les nôtres, donc tant pis pour l'enfant. Donc, ben là, le fait que d'être qui est en photo de désagréable, mais c'est pas grave, c'est ma photo, je la trouvais chouette. Paf, j'ai mis...
Mais là, on voit bien aussi avec les parents qui avaient fait des vidéos sur YouTube de leurs enfants, où maintenant, c'est considéré comme du travail et que... Enfin, on peut pas faire les choses... Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi des parents qui se sont enrichis et... avec leurs enfants. Et c'est vrai que là, comme quoi les lois suivent les évolutions de la société, bon, pour le moment, les lois, elles courent un peu après l'évolution du numérique. Est-ce qu'il faut tout réglementer? Moi, je dirais pas forcément, c'est juste apprendre à avoir des usages responsables, parce que s'il faut tout réglementer, après, on est plus libre d'innover et on peut plus avancer. Donc, c'est un peu dommage de se restreindre sur les usages tech, parce que ça apporte des trucs sympas. Par contre, des usages en conscience. Et jouer la transparence, tout à l'heure, tu posais la question du RGPD. Moi, j'ai remarqué que la transparence avait amorcé déjà du questionnement qu'on n'avait pas du tout par le passé. Et par le questionnement, petit à petit, les personnes commencent à dire « Ah bah ça, je suis pas d'accord ». Maintenant, il manque d'alternatives propres ou la connaissance des alternatives propres, mais il y a une volonté d'aller vers du mieux et un peu moins d'exploitation à leur insu. Après, il y en a côté mercenaire. Ah, tu peux exploiter, mais à condition que tu me rémunères et puis si tu faut que je t'en alimente. Enfin, ça s'appelle la télé-réalité, hein. Voilà, mais ça se monnaie.
Il y a un bénéfice, ouais, il y a un bénéfice direct.
Voilà. Franchement, moi, j'ai pas envie de vivre dans un épisode de télé-réalité et sans même laisser ma vie perso, parce que déjà, ceux qui la connaissent, des fois, trouvent des éléments assez pathétiques. On est obligé d'en rajouter. J'ai pas besoin de témoins.
Dans le monde entier, ouais, peut-être pas.
Mais voilà. Ça, la télé-réalité, je suis convaincu que c'est financé par les chaires de recherche en psychologie ou en sociologie. C'est sûr qu'il y a du financement éducationnel, institutionnel là-dedans. Puis ça se peut pas que les gens se signent des éléments comme ça, d'exposition, de ridicule. À quel point ça peut être ridiculisé, là, ces gens-là, dans 20 ans, là, ces bandes vidéo-là vont rester. C'est pire que YouTube. C'est vraiment, c'est de la télé, là. C'est mortel.
Il y a eu Darwin et maintenant il y a Big Brother. On a retrouvé nos chaînons manquants.
Ouais, ben c'est ça, mais c'est ça, puis c'est aussi l'autre aspect, puis on le voit beaucoup chez les jeunes, le fait, le goût de s'exposer publiquement. La télé-réalité est une belle démonstration de gens en manque d'expression publique ou en tout cas d'impression de se montrer publiquement. Il y a aussi beaucoup ça, là, dans les réseaux sociaux vont énormément jouer chez les jeunes, particulièrement les amener à s'exposer, parce que c'est ça leur modèle d'affaires, c'est que les gens s'exposent, fait que ils vont nous amener, puis ils vont jouer beaucoup sur cette corde-là chez les jeunes, par exemple. Est-ce que ça l'a... dans ton entourage, ça a des effets, ça? Est-ce que tu as observé des choses comme de cette nature-là?
Moi, dans mon entourage, pas particulièrement. Je pense que je suis peut-être pas aussi l'entourage, enfin, la population cible, mais c'est vrai qu'en effet, je pense chez les plus jeunes, notamment avec le nouveau concept d'influenceur, nouveau métier d'influenceur, et il y a beaucoup, beaucoup de mouvements de, en effet, rien que TikTok, hein, on va reproduire la même danse, on va reproduire la même photo, on va aller dans le même restaurant, on va se montrer dans le même restaurant qui a fait du bruit, etc., etc. Et en fait, il y a une culture du numérique qu'ils ont, que je pense que chaque génération a une culture numérique un peu différente. Et même moi, par rapport à un gamin d'aujourd'hui de 14 ans, j'ai pas du tout la même approche de la culture Internet. Et je pense que, ouais, c'est un peu particulier. Il y a besoin de se montrer, mais il y a besoin de, ça fait partie de la cohésion avec la communauté. Ils appellent ça des communautés, en vrai. Même les youtubeurs, les influenceurs, ils parlent de communauté. Et je pense qu'il y a cet esprit de communauté qui est difficile à enlever à un jeune, parce qu'il grandit dans cet esprit communautaire un peu étrange, qui est un peu différent et qui est beaucoup plus étendu, et qui passe par les réseaux. Donc est-ce qu'il peut s'abstenir des réseaux, est-ce qu'il peut vraiment le faire? Je ne sais pas.
Ça doit être vraiment difficile. Puis ça, c'est l'aspect très grégaire de ce qu'on est finalement, là. Cette espèce de communauté, ça, c'est une façon très marketing de vendre le fait que c'est toutes des suiveurs, là. Mais moi, je trouve ça fascinant, ces affaires-là, mais en même temps, c'est l'image, puis ce qui m'est venu en tête, parce que je suis un vieux, c'est les films américains où ils montraient les équipes de football, où il y a toute l'espèce de cohésion du gros, puis toute cette espèce d'image très hollywoodienne de l'adolescence, puis de se faire ça. Maintenant, c'est vraiment promu par les réseaux sociaux, cette espèce d'élément-là. Pas que si l'image hollywoodienne était meilleure que l'image des réseaux sociaux maintenant, là, ça a des plus et des moins dans les deux cas. Et ça trahit mon âge aussi. mais c'est intéressant. Moi, ce qui me trouve par rapport à ça, puis vous êtes deux femmes, c'est l'énorme sexualisation des femmes sur ces éléments-là. Et ça me trouble énormément. Comment vous abordez ça, puis comment vous le voyez?
Bah moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la sexualisation des jeunes femmes, des jeunes enfants même, sur les réseaux, et notamment sur TikTok, et notamment sur Instagram un peu moins. Mais parce que, ouais, ils vont suivre les images des influenceurs, etc. Les gamins, aujourd'hui, par exemple, regardent sur Instagram. Même une gamine de 3 ans, elle a des habits d'adulte. Elle est adulte. Elle est maquillée adulte.
C'est là où je ne comprends pas l'industrie du vêtement. C'est que pour moi, un string pour une enfant de 5 ans, je ne comprends pas. Et là, c'est aussi à quel point il y a une manipulation tant des jeunes adultes et donc des parents. Et comment après, les enfants, bah, là encore, sans choisir, parce que ce n'est pas elle qui va choisir d'avoir un string. Hein, donc, et au final, le problème de ces réseaux, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran de l'autre côté. Et cette manipulation de personnes perverses, y a des personnes qui sont complètement numérico-dépendants. Maintenant, on reconnaît cette addiction au numérique, au réseau, à partager sa vie, puisque maintenant, il y a des personnes qui se mettent dans des états d'angoisse dès lors qu'ils n'ont plus de connexion Internet et qu'ils ne vont pas pouvoir accéder à leur smartphone et à tout leur réseau. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de vie, qu'ils n'existent plus dès lors qu'ils n'ont plus de connexion. Et c'est là où maintenant, on découvre de nouvelles pathologies. C'est vrai qu'on évolue, mais est-ce que c'est une bonne évolution? Mais là encore, ça veut dire que à quel moment la déviance se déclare? Qui en joue? C'est pour ça que j'aime bien ce qu'a fait le RGPD par cette volonté de transparence. Ça impose des questions, ça impose des débats éthiques, parce que c'est vrai que le numérique s'est développé et puis c'était l'attractivité, ces nouvelles technologies, c'est très bien. Maintenant, on a du recul sur des usages. Maintenant, après l'euphorie, après le développement et tout, maintenant on a un temps d'observation qui nous permet d'avoir des usages raisonnés. Et c'est ce qui me plaît dans la vision de la cyber, où la cyber n'est pas que technique, c'est vraiment une approche globale de la sécurisation de l'espace numérique. Et dans cette sécurisation de l'espace du numérique, ça veut dire aussi sécuriser les usages et protéger les personnes vulnérables. Aujourd'hui, sous prétexte de vouloir faciliter le quotidien de personnes vulnérables, on les expose davantage. t'es une personne âgée désorientée, tu retiendras pas ton mot de passe, toute ta vie privée, tes comptes bancaires, ta boîte mail et tout, est tout accessible sans mot de passe, parce que de toute façon, tu vas l'oublier. Oui, mais ça veut dire que toute personne qui vient chez moi va pouvoir s'approprier toutes mes informations. Donc, c'est pas correct. Pour moi, la cyber est là aussi pour protéger les personnes qui sont vulnérables et pas pour créer des survulnérabilités des personnes qui sont fragiles. Par contre, la technologie peut vraiment leur apporter des choses pour une aide au quotidien, pour pouvoir rester à leur domicile et pas devoir partir en institution. Et c'est là où, pour moi, les technologies, des usages raisonnés, responsables, avec des questions éthiques et des vrais débats sociétaux. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a des études, il y a des sociologues, il y a des psychologues, la télé-réalité, bah oui, on observe les évolutions, mais t'empêche qu'on en tire des leçons.
Il y a des articles scientifiques.
Hein, on se rassure aussi des fois, parce qu'on dit, bah des fois, et franchement, ça repose le cerveau, ça détend des fois, c'est de dire, waouh, c'est des expériences. Hein, mais comme tout nouvel univers, en fait, tout ce qui nous est étranger nous intrigue. Donc, on observe. Des fois, ça nous rassure, des fois, ça nous fait peur.
Bon, c'est un peu comme aller au zoo. On va regarder des animaux et on regarde. Puis là, on est un peu étonné du comportement des animaux parce qu'on ne les comprend pas encore, parce que c'est des choses comme ça.
J'aurais pas aller jusque-là.
pour moi, la télé-réalité est de ce spectre-là. On va au zoo. Une espèce de curiosité morbide qu'on a de regarder nos autres humains qui se... laisse aller à la peinture aussi. Là. Puis, tu sais, c'est pas. J'ose espérer qu'ils ont minimalement réfléchi 5 secondes avant de signer un contrat qui leur donne le droit à la chaîne de diffusion de faire ce qu'ils veulent avec le contenu. Mais ça, c'est un autre débat, savoir s'il est super éclairé. Mais bon, il se prête quand même au jeu de façon volontaire. C'est pas. Puis, ils compétitionnent. Ils font des compétitions pour qui veut vraiment être là. Puis, ils choisissent celui qui est le plus épatant. Du lot en plus, c'est ça qui est... c'est d'une folie. Oui,
eux, au moins, ils sont rémunérés. Maintenant, si je regarde le smartphone des individus et tout ce que finalement on sait sur leur vie...
J'aimerais bien être payé pour ça.
Et on rigole de la télé-réalité, mais au final, les entreprises qui sont derrière la collecte de données qui sont sur nos smartphones, où notre smartphone est capable de nous dire où partout on a traîné nos guêtres alors qu'on lui a pas demandé de nous surveiller. Quand moi, on m'explique que ma voiture me géolocalise pas et qu'on me dit que je peux pas avoir de GPS dans ma voiture, par contre, elle est capable de me dire en temps réel à quelle vitesse je dois rouler. Donc, si à partir de là, elle m'a pas géolocalisé, je sais pas si c'est pas qu'on se fout de ma gueule. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais non, ma voiture, elle me géolocalise et maintenant, arrêtez de me dire et vous manquez un petit peu de transparence, c'est pas très clean. Parce qu'après, derrière, maintenant, on commence à nous parler de ce fameux boîtier boîte noire qui va nous dire si jamais il y a un accident, à quelle vitesse on était, et patati et patata. Et à quand la verbalisation à partir de ce boîtier? Et jusqu'à quand mon assureur, il m'assure? Ah, madame, vous roulez un peu trop vite. Oui, bah, je suis tout le temps à la bourre. Désolée. Bah oui, mais vous roulez trop vite. Conduite dangereuse, je vous assure plus. Ah merde.
Mais je sais pas en Europe, c'est ça, mais on a en Amérique le fait que les assureurs mettent un bidule dans les autos pour mesurer puis enregistrer ces éléments-là.
Vraiment. Pour les bonnes idées, vous êtes les premiers. Hein. Après, ça arrive chez nous.
C'est terrible. Comme, non, mais d'habitude, on copie ce qui se passe en France après. Puis, comme la gestion de la COVID, c'est une copie de ce qui se passe en France. Fait que le fiasco français, on l'a importé ici. Mais ça fait qu'on a le même niveau de fiasco, finalement. Mais c'est bon, bref, on l'a personnalisé. Mais là, non, la boîte, non, les compagnies d'assurance automobile font ça. Ils mettent un bidule OBD dans chose qui vient mesurer la vitesse, l'accélération, ces choses comme ça. Et ils incitent les gens à adhérer à ce genre de choses-là en donnant des réductions d'assurance. Donc, il y a comme un incitatif financier à te faire surveiller comme conducteur et, dans le fond, de dériver un profil de conducteur et ensuite de moduler ton char. Donc, si t'as freiné trop rapidement, accéléré trop rapidement, tes primes vont monter. Si tu conduis comme mes grands-parents, ben là, tes primes vont descendre.
Mais c'est un système de récompense à la bonne pratique. Vous aviez ça déjà avec vos assureurs, comme quoi en fait les assureurs motivent le changement de comportement, parce que vous aviez ça en santé avec l'utilisation de la simulation en santé pour que les médecins en fait montrent à quel point ils maîtrisaient le geste avant de passer au bloc opératoire, et ça permettait de réduire les taux d'assurance en fonction de leurs statistiques en matière de simulation. En France, nous, c'est encore tabou, et non, faut surtout pas dire si c'est un bon médecin ou un mauvais médecin, et que si le gars, en fait, il est juste naze dans son geste, bah, il sera naze dans son geste, mais en attendant, s'il a eu le droit d'opérer, il opérera. Et il paye plein pot l'assurance, il a pas de remise d'assurance. Mais bon, quand on commence à aborder le sujet, parce que vous le faites outre-Atlantique, bah, là, pour le moment, il y a une levée de bouclier des médecins, mais petit à petit on va y arriver. Et bah là, bah voilà, si pour la voiture vous le faites déjà, bah nous on sait que ça va nous arriver. Donc en fait, vous êtes à la motivation financière pour les bonnes pratiques. Donc il faudrait, est-ce que ça veut dire que pour les PME, il faudrait que les assurances en fait réduisent les taux de cotisation si on fait les mesures de base de sécurité?
Mais c'est en discussion, l'usage des assureurs, surtout là, avec l'explosion des rançongiciels, c'est énormément discuté pour le moment, que certains assureurs refusent de payer ou vont changer leur cotisation, parce que d'autres, ils basent sur des éléments d'actuariels pour déterminer les primes. Là, ils constatent qu'ils chargent pas, ils mettent pas des primes assez élevées pour récolter justement les dommages qu'ils doivent payer à posteriori. C'est ça, ils récoltent pas assez d'argent. Donc, effectivement, ils vont commencer à changer les primes de plus en plus élevés aux compagnies qui sont de moins en moins bien protégées. Donc, oui, ça va avoir un incitatif, mais oui, de toute apparence, en Amérique, on aime beaucoup l'incitatif financier pour nous amener à des comportements, mais en même temps, les YouTubers, c'est ça, il y a un incitatif financier aussi, là. Puis ils ne communiquent pas à leur communauté qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font.
Et ils font de la pub. Ça repart tout le temps de la pub. Publicité, publicité, publicité.
Elle n'est pas déclarée, cette publicité-là, non plus. Ça aussi, c'est de l'influence non désirée.
Ah, ils sont obligés de le déclarer quand ils font des communications commerciales. Les youtubeurs, les influenceurs.
Pas toujours. Des fois, il y a du placement de produits. On le voit bien aussi dans les films. On le voit dans dans les émissions de télé, il n'y a qu'à voir là le scandale qu'on a sur l'Euro de football, avec des partenaires de l'Euro de foot qui ont râlé parce que les joueurs, quand ils sont interviewés, enlèvent la canette de Coca-Cola ou la bouteille de bière parce qu'ils cautionnent pas, parce que ça correspond pas à leur hygiène de vie et ce qu'ils veulent vis-à-vis de leur communauté perso. Mais derrière, il y a les sponsors qui râlent en disant « Mais t'as enlevé alors que moi, je finance… »
J'ai payé pour le mettre là.
Là, j'ai payé, hein, donc t'es gentil. Mais... Et lui, il dit « Oui, mais moi, par rapport à ma communauté et tout… » Et en fait, on se rend compte que là aussi, les influences et les intérêts des uns et des autres, ben, un joueur de foot d'envergure internationale n'en a rien à fiche d'une sponsor de l'Euro, parce que c'est le sponsor de l'Euro, par contre, son sponsor perso, il va y l'écouter. Et ce qu'il représente pour sa communauté et les valeurs qu'il porte, et ben il faut qu'il les porte tout le temps, ce qui emmène des fois des petits conflits fort sympathiques. Mais là aussi, les jeunes, ils vont dire « Ah ouais, c'est trop bien, c'est parce qu'en fait, il fait la promotion de la vie saine, du corps sain. » Et non, c'est juste qu'il a des intérêts financiers autres. voilà. Mais bon, c'est... La manipulation, c'est là aussi où on se rend compte au niveau des États, parce que t'es aussi en relation internationale avec ça, mais c'est que finalement les interlocuteurs des États maintenant deviennent aussi des entreprises, et que c'est plus des rapports entre États, et que maintenant dans le débat, et notamment sur la normalisation et la régulation, arrivent des partenaires privés dans des relations entre États. Et le poids des GAFA, quand on voit aujourd'hui même que quand on parle de relations internationales, on se dit qui va payer le gros câble Internet qui va passer dans l'Atlantique? Et on se rend compte que qui finance ça? Qui finance nos satellites pour l'espace et pour la communication? Tiens, c'est encore un acteur privé. Et voilà, et on se retrouve sur des enjeux telle qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a certains citoyens qui sont déconnectés de tout ça, qui n'ont pas conscience de tout ce qui se trame derrière. Et au final, que leurs choix ne sont pas leurs propres choix et que leurs choix ont été influencés par tout un ensemble d'informations dans lesquelles ils baignent au quotidien. Et que finalement, notre libre arbitre, notre esprit critique, si on veut pas être des moutons, où est-ce que je trouve l'information maintenant? Si je veux rester avec mes propres idées et pas sous influence, ça commence à devenir compliqué.
C'est très compliqué. Puis là, je vais lancer la balle côté d'Alexandre. Comment toi, parce que tu as appris tous ces éléments-là, le fait qu'on est basculé dans un univers, dans le fond, on a de moins en moins de contrôle sur l'information qui nous touche. Donc, est-ce que nos décisions sont vraiment les nôtres? Au bout, c'est plus difficile maintenant de le calibrer. Comment ça s'est vécu, cette espèce de réveil-là? Parce que ça va être quand même assez brutal quand on arrive dans un monde avec des calinours. C'est bisounours en France. Nous autres, c'est des câlins, c'est pas des bisous. Fait que c'est des câlinours. Mais ce réveil-là du monde des licornes à la dure réalité que tout est commercial, on est manipulé constamment, puis on est utilisé par le GAFAM, entre autres, mais par beaucoup d'autres influences.
Ce réveil-là, ça fait un moment quand même qu'on l'entend un petit peu. Et qu'on sait que c'est pas, voilà, qu'on est un peu, que les algorithmes nous biaisent un peu, qu'on nous montre l'information qu'on pense est pertinente pour nous et que même dans la recherche sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, on est de toute façon influencé et l'accès à l'information est biaisé. Mais c'est un peu effrayant et je sais même pas comment taper sur Google, je veux me passer de Google. Mais c'est un peu déroutant et je pense qu'il faut davantage de sensibilisation pour que cette question-là, on se la pose à plusieurs moments de nos vies et à plusieurs moments de notre avancement professionnel et scolaire. Et pour prendre le temps de l'appréhender quand même. Je pense que c'est un peu compliqué de se dire ouais, mais est-ce que ce que je pense, c'est moi qui le pense ou est-ce que j'ai été influencée?
Mais c'est un peu c'est une transformation de notre société et il faut juste qu'on s'adapte. Et l'adaptation, comme il y a eu l'industrie, on est passé de l'artisanat à l'industrie et aujourd'hui on passe de l'industrie au numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut le temps d'adaptation est nécessaire, mais c'est vrai que les technologies avancent très 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 vite. Et que on s'adapte pas hyper vite. Mais c'est après il existe des colloques, il existe des points de rencontre où les gens peuvent échanger. Et puis c'est vrai que la Semaine numérique du Québec permet aussi de faire toutes ces passerelles parce qu'à un moment donné sur une semaine d'avoir en transversalité tous les sujets qui sont abordés, ça permet en fait une parenthèse où on peut se poser des questions, où on a des apports d'expertise, où on croise les regards. Et c'est ce qui fait avancer le Schmilblick en fait. C'est ce qui participe à la prise de conscience générale parce que c'est vrai que tant qu'on est tête dans le guidon, dans nos filières, dans nos quotidiens, on n'a pas ce recul nécessaire. Donc, c'est vrai que l'avantage d'aborder la question de la ville intelligente, de passer par la santé, en fait, on voit les intérêts, on voit les enjeux, on voit les risques. Un petit coup de sécure par-dessus, là, pour bien prendre conscience du risque et de la menace. Et puis, à un moment donné, c'est d'apporter des solutions, mais des solutions qui sont responsables. Les notions d'éthique aussi sont abordées à chaque fois. C'est une vision internationale aussi, ce qui fait que franchement, c'est des expériences riches. Donc, il faut continuer ces échanges. C'est pas que je vous pousse à poursuivre, mais ça fait vraiment aussi avancer. On voit l'impact culturel aussi sur les usages du numérique. Parce que l'air de rien, suivant notre culture, on n'a pas du tout les mêmes usages, on n'est pas non plus dans le même niveau d'acceptabilité. Je sais que pour le moment, le modèle de vie de la ville intelligente chinoise en France, elle ne séduit toujours pas. Hein. Au moment où on est... Non, ce n'est pas notre délire.
Franchement.
J'ai aucune idée pourquoi, mais...
Bah nous, en fait, on préfère se galérer 3 semaines à retrouver le cambrioleur et à garder un peu plus de vie privée.
Ouais, ben, sous-peser, justement, ben là, t'abordes le volet au niveau de la police puis ces choses-là, c'est effectivement l'espace entre les deux, entre la vitesse d'arrestation et de l'acceptabilité de tolérer une certaine ratée de ce côté-là, ou le point de vue très américain, et probablement très, puis encore plus chinois, de l'instantanéité du correction du geste qui n'est pas voulu. Cette rectitude-là, elle est pour moi très dangereuse parce qu'on en va dans une communauté très puritaine. Et un peu ce qu'on a vu en Angleterre et ce qui a amené à toutes les gens de quitter l'Angleterre pour les États-Unis lors de la colonisation, justement de quitter ces régimes-là qui sont... Puis eux autres sont même allés, c'est le ballet puritain qui a quitté d'ailleurs l'Angleterre pour aller aux États-Unis, donc ça explique une partie du problème américain du puritanisme qui va avec, là, toute cette rectitude-là dans laquelle on est contraint. Pour moi, c'est très, très dangereux. Il y a la servante écarlate, je crois, je ne sais pas comment en français c'est traduit, Handmaid's Tale, qui est l'histoire qui est un peu ce moment-là du puritanisme américain qui réexplose dans des communautés. C'est grave, c'est très comment la Chine voit les villes, c'est comme on est enfermé dans des prisons. Puis Facebook est un peu cette représentation-là de ça. Là. J'aime bien les sourires.
Bah, c'est-à-dire que vous avez aussi les Kardashians. Hein? Ah voilà, quoi, le puritanisme, ça te fait penser de quel angle?
Ça dépend de la chaîne. Les États-Unis sont riches.
ça dépend des zones, ça dépend des choses, mais il y a encore des dans côte est, nord-est, il y en a encore beaucoup de ces colonies, de ces régimes-là puritains qui religieux et ils sont encore présents, ça. Puis probablement qu'ils financent en plus les Kardashians et ces affaires-là. C'est ça qui est le plus étonnant dans le système. Ils sont d'un côté très rigoureux, on va dire. Mais de l'autre côté, ils acceptent de faire de l'argent sur des choses qui sont, discutables.
Mais l'argent n'a pas d'odeur.
Aucune. Je pense qu'on va arrêter. On va arrêter là, justement, là, parce qu'on est en train de glisser sur des zones que je pense qu'on va garder pour le privé. Donc, c'est un énorme plaisir d'avoir enregistré avec vous deux. Ingrid, je sais qu'on réenregistre ensemble en solo. Alexandre, je te lance l'invitation pour qu'on enregistre en solo, pour qu'on explore ces sujets-là ensemble, parce que c'est un point de vue, un regard très, très intéressant sur la cyber. Puis moi, je me sers du podcast comme véhicule pour justement sensibiliser les gens, les amener à mieux saisir où on s'en va. Puis je pense que ton discours est très intéressant de ce côté-là. Fait que je pense qu'on a une belle opportunité. Fait que je vous remercie pour cet enregistrement. Et d'avoir pris le risque de vous faire déranger autour aussi.
Et sa professeure, c'est Laurane Raimondo que tu as en contact.
Oui, tout à fait. Puis la référence, oui. Puis je commence à enregistrer avec elle dans les prochaines semaines aussi. Fait qu'on va avoir une discussion, nous, de ces choses-là avec différents points de vue. Ça va être super intéressant. Moi, je suis hyper emballé parce que ça, moi, ça m'enrichit, mais j'espère que ça va enrichir aussi les gens dans notre entourage qui vont justement pouvoir prendre des choix un peu plus éclairés par rapport aux technologies, puis éviter de prendre des raccourcis.